Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Nous voici partis pour les échos de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons voyager. Non pas en France, ni même dans le monde, mais dans l'espace. Nous aborderons plusieurs aspects au cours de l'émission, tels que le voyage dans l'espace, voire même sa colonisation. Et un débat sera mené autour de ce sujet. Mais je ne suis pas seul autour de cette table pour vous parler de tout cela. Je suis accompagné de Éloane. Je suis accompagné de Éloane.
Salut à tous.
De Romain.
Yes, salut.
Et de Rodolphe.
Bonjour tout le monde.
Ensemble, nous essaierons de démystifier les défis lancés par l'humanité afin de voir si ces projets spatiaux sont de l'ordre du fantasme ou de la réalité. Qui dit voyage dans l'espace implique forcément que l'on doit quitter la Terre. Mais pourquoi la quitterions-nous? Puisque sur notre chère planète bleue, tout est propice à la vie. Enfin, pour l'instant. Vous n'êtes pas sans savoir que le réchauffement climatique prend une place de plus en plus importante dans notre société. Au fil des ans, les étés seront de plus en plus chauds. On pourrait atteindre les 55 degrés Celsius, ce qui serait très désagréable à vivre. Stephen Hawking a dit « Notre planète, la Terre, est menacée par la surpopulation et le manque de ressources. » Nous avons besoin d'un plan B. Si notre espèce veut survivre aux 100 prochaines années, sans parler des 1000 prochaines, il est alors impératif que nous colonisions d'autres mondes à travers le cosmos. Il faut donc penser à un moyen de sauver l'humanité. Et c'est un des objectifs de Elon Musk, milliardaire américain et fondateur de SpaceX, entreprise privée spatiale. Et le fait d'amener l'humanité sur Mars permettrait de sauvegarder l'humanité d'une catastrophe planétaire. Mais quelle serait notre destination dans ce cas ? Romain va vous parler d'une des possibilités.
Oui, donc salut à tous. Bien qu'on pense souvent directement à Mars lorsqu'on aborde la thématique de la colonisation de l'univers, moi j'aimerais vous parler de Vénus, la planète la plus proche de la Terre, qui a d'ailleurs inspiré de nombreuses légendes et ouvrages de science-fiction. Donc, du fait de sa taille et de la présence de nuages dans sa haute atmosphère, elle a longtemps laissé supposer qu'il puisse y avoir la vie sur sa surface, ou du moins qu'elle puisse y prospérer. Elle a même été surnommée la sœur jumelle de la Terre, mais en fait, des sondes ont découvert dans les années 60, par les soviétiques notamment, que sa surface est très hostile. Température d'environ 500 degrés Celsius, pression atmosphérique abyssale, air dépourvu d'oxygène mais saturé d'acide et de dioxyde de carbone, et j'en passe clairement. Donc c'est ainsi que les recherches sur la colonisation de l'univers se sont tournées plus vers la Lune ou encore Mars. Cependant, dans la haute atmosphère de Vénus, à une altitude de 50 km, la pression et la température sont similaires à celles de la Terre, c'est-à-dire 1 bar et entre 0 et 50 degrés Celsius. Et les chercheurs sont mis à rêver et à imaginer des cités flottantes dans la haute atmosphère de Vénus, un petit peu à l'image de la cité des nuages dans l'Empire contre-attaque, l'épisode 5 de Star Wars. Geoffrey A. Landis, chercheur à la NASA, déclare en 2003 que la haute atmosphère de Vénus est la zone du système solaire la plus proche de la Terre en termes de conditions climatiques et qu'il recommande une exploration de cette zone à l'aide de dirigeables. Donc, idée un peu folle. En plus, l'énergie solaire y serait abondante. Il existe une constante, appelée constante solaire, qui quantifie l'énergie solaire disponible dans l'atmosphère d'une planète. Et celle de Vénus est environ 2 fois plus élevée que celle de la Terre. Et les nuages seraient assez réfléchissants pour que des panneaux solaires tournés vers eux transmettent autant d'énergie que s'ils étaient tournés vers le Soleil lui-même. Cette notion, elle participe grandement à alimenter l'idylle d'une vie future de l'humain sur Vénus, car avec une technologie bien maîtrisée, cela signifierait l'énergie infinie. Un autre avantage est que Vénus a une masse très proche de celle de la Terre, et il en résulte une gravité ressentie d'environ 90% de la gravité terrestre, ce qui apporterait seulement un petit brin de légèreté, j'ai envie de dire. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, l'étoile du Berger est le corps le plus proche de la Terre, en dehors de la Lune, ce qui facilite les communications et le transport surtout. Avec des fusées chimiques, on a déjà effectué le trajet en 3 mois, ce qui est moins de la moitié du trajet de Terre-Mars. Et la fenêtre de lancement est elle aussi resserrée. Vénus est en fait au plus proche de la Terre tous les 584 jours, contre 780 pour le cas de Mars. Cependant, il reste de nombreux obstacles à franchir pour coloniser la planète. Le premier est celui de l'oxygène. En fait, il est tout simplement inexistant dans l'atmosphère vénusienne. Donc ça pose un énorme problème. Et ça implique que les colons devraient constamment vivre dans un espace contrôlé, ou alors se déplacer avec une bouteille d'oxygène sur eux. Landis, dans son rapport, a proposé une idée encore plus folle que les précédentes. En fait, à 50 km d'altitude, l'air tel qu'on le connaît, composé à 79% d'oxygène, est un gaz portant. Au lieu de suspendre des structures à des ballons, on pourrait carrément enfermer ces structures dans les ballons, qui contiendraient un air aux propriétés proches de celui de notre atmosphère terrestre. Et en termes de chiffres, la théorie nous dit que l'on pourrait suspendre 6 millions de tonnes de matière dans un ballon de 2 km de diamètre rempli d'air. Mais alors, qu'en est-il en pratique? Seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de vous dire. Et puis, en plus, il reste un autre problème à régler. Un jour vénusien équivaut à environ 116 jours terrestres, ce qui veut dire des nuits et des journées de 2 mois chacune, environ, quoi. Donc, pour remédier à ça, la théorie nous dit aussi que les vents de cette altitude pourraient faire à une station flottante le tour de la planète en 100 heures environ. Ce qui réduit le temps des nuits et des jours à 50 heures. Beaucoup plus abordable quand même. Il relève tout de même de l'impossible de franchir certains obstacles, tels que celui du champ magnétique naturel, par exemple. En effet, sur Terre, le champ magnétique nous protège des rayons cosmiques et des tempêtes solaires. Sauf que sur Vénus, la planète est totalement dépourvue de champ magnétique, en fait. Par ailleurs, du fait de ces conditions, il nous serait très difficile de récupérer les ressources disponibles sur la surface de la planète. Il faudrait donc s'approvisionner en certaines ressources exclusivement depuis la Terre, ou autre, éventuellement. Mais le frein le plus important à mettre en avant aujourd'hui est quand même celui du débarquement, et plus précisément de l'arrivée dans l'atmosphère de Vénus. En fait, contrairement au cas de Mars, où l'atterrissage ne pose pas de problème du tout, puisque la planète rouge n'a pas d'atmosphère, il paraît impossible de maîtriser l'arrivée de dirigeables dans l'atmosphère vénusienne, qui est très hostile. C'est d'ailleurs pour cela que les recherches en termes de colonisation de l'espace se concentrent aujourd'hui sur Mars ou la Lune. Donc, concernant les opérations mises en place dernièrement pour la recherche sur la colonisation de Vénus, on peut citer la sonde Vénus Express de l'Agence spatiale européenne qui s'est mise en orbite autour de la planète en mai 2006 pour étudier l'atmosphère et les nuages en détail. La mission s'est achevée en 2014. Et par ailleurs, de futures missions de visite de Vénus incluent la sonde Planète C de l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise. Donc voilà pour une future éventuelle colonisation de Vénus.
Merci Romain pour toutes les informations. Mais Vénus n'est pas la planète visée par Elon Musk. En effet, il a une planète un peu plus rouge en tête. Il vise Mars. D'ailleurs, il ne cache pas son optimisme face à ce projet ambitieux, car il envisage l'arrivée des premiers humains en 2024, donc dans 5 ans. Et si cela ne se fait pas, il a indiqué que cela se produirait un tout petit peu après la date. Mais ce n'était pas la seule personne à s'intéresser à cette planète. Et cela en découle une anecdote intéressante. Au XIXe siècle, Percival Lowell, un astronome amateur américain, se consacre à l'observation de Mars et donc construit un observatoire. Il est convaincu qu'il voit beaucoup de canaux martiens en observant cette planète. Il en découvre 400 et crée même une carte de ces canaux. Sa thèse, c'est que les canaux sont tellement rectilignes qu'ils sont forcément artificiels. Par conséquent, il y avait l'idée des martiens. Mais il faudra attendre 1920 pour qu'un Italien, Antoniadi, détruise cette hypothèse car c'était une illusion d'optique. En effet, les canaux qu'il voyait étaient finalement les canaux sanguins de sa rétine. Et ce qui est intéressant avec cette anecdote, c'est que Mars est vraiment un fantasme et on souhaite voir de la vie sur cette planète.
Et d'ailleurs, sur un petit peu tout ce qu'on observe dans l'univers.
Exactement, exactement. Et maintenant, nous allons vous passer une musique de Nicolas Jarre, « Space is only noise if you can see ».
One point belonging to each space. it happens all the time. Replace the word space with drink and forget it. Space is only noise that you can see. Grab a calculator and fix yourself. Grab a calculator and fix yourself. Read the news, baby, read the news. Watch your clock, baby, watch your clock. Watch the weather, baby, on TV. It's all together.
Sur Mars, Rodolphe.
Alors voilà, on va tenter un petit peu d'y répondre. Alors, comme Vénus, Mars est également plus proche de la Terre. Donc en moyenne, elle se trouve à 76 millions de kilomètres, sachant que la distance minimale avec la Terre, là où elle se trouve le plus proche de la Terre, est de 56 millions de kilomètres. Donc en fait, voilà, une telle distance impliquerait, avec les moyens actuels, un voyage de 6 mois. Et encore, ce serait juste l'aller. Le retour serait encore plus long et prendrait 1 an et 3 mois. En fait, par le passé, Mars avait des similitudes avec la Terre. Donc en fait, voilà, par exemple, il y avait de l'eau sur Mars. Et elle a aussi une atmosphère, hein, même si elle est plus fine que celle de la Terre. Donc en fait, on voit qu'elle a quand même des caractéristiques assez similaires avec la Terre. Sa gravité, par contre, voilà, c'est le tiers de la nôtre. Et en fait, du fait de la taille, enfin la masse de Mars, qui est environ un petit peu plus petite que la Terre. Par contre, en fait, contrairement à Vénus, hein, comme Romain en parlait tout à l'heure, la durée d'une journée sur Mars est beaucoup plus courte, en fait, et beaucoup plus semblable à une journée sur Terre, en fait, puisque une journée sur Mars, c'est une journée et 37 minutes. Donc, en fait, si on souhaite voyager, envoyer un vaisseau sur Mars, en fait, cela reviendrait à tirer une flèche sur une cible en mouvement tout en étant soi-même en mouvement. Donc, ce ne serait pas une tâche vraiment facile. Et d'autant plus compliqué qu'en plus, voilà, il y a une fenêtre de tir pour pouvoir envoyer un vaisseau sur Mars. Et cette fenêtre, voilà, elle se répète à peu près tous les 26 mois. Donc, en fait, il ne s'agit pas de la manquer. Il faut être prêt, à temps. Et, voilà.
D'accord. Donc, finalement, pour aller sur Mars, si j'ai bien compris, il y a un peu de chemin à faire, puisque 76 millions de kilomètres, c'est quand même un peu de chemin. Mais j'imagine que ce chemin est jonché d'obstacles. Et je voudrais bien savoir lesquels et quelles sont les solutions proposées par les scientifiques.
Alors voilà, en parlant d'obstacles, on va commencer par les obstacles en fait pendant le trajet qui s'appliquerait sur les problèmes qu'on aurait avec le vaisseau. Donc voilà, pendant le trajet, en fait, le voyage, on serait soumis à des tempêtes solaires, voilà, avec des comètes, des rayons cosmiques. C'est des radiations qui peuvent entraîner des tumeurs et qui peuvent être très dangereux pour en fait la santé des astronomes. Donc en fait, les scientifiques ont imaginé des méthodes pour pouvoir essayer d'atténuer en fait l'effet de ces radiations. Et ils ont eu l'idée de recréer un petit peu ce champ magnétique qu'on retrouve sur Terre et qui permet de nous protéger de ces radiations. Alors comment recréer un petit peu ce champ magnétique, hein, c'est pas une tâche facile. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, on pourrait essayer, grâce à la force centrifuge, de faire tourner le vaisseau très rapidement sur lui-même, ce qui permettrait de recréer en fait un champ magnétique, ce qui pourrait bloquer en fait ces radiations. Alors il y aurait un autre problème, ça serait au moment de la phase de l'atterrissage. Alors en fait, le problème, c'est que l'atmosphère sur Mars, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est très fine. Donc en fait, le vaisseau, au moment où on ouvrirait son parachute, il freinerait beaucoup moins vite que sur Terre. Donc notre vaisseau, qui pèserait, imaginons, 30 tonnes, arriverait à une vitesse d'à peu près 5 km par seconde. Donc c'est colossal et pour l'atterrissage, voilà, ça poserait problème. Donc il faudrait trouver un moyen de ralentir. Alors aujourd'hui... quelle technologie on a actuellement? Bon, voilà, on a déjà au niveau des lanceurs de vaisseaux, on a le BFR, donc le Big Falcon Rocket, donc conçu par SpaceX, la société d'Elon Musk. Donc c'est un lanceur réutilisable qui vise à remplacer toutes les autres fusées. Elle permettra d'amener des vivres à l'ISS, donc à la Station Spatiale Internationale, mais et également d'aller sur la Lune à terme. Donc par exemple, on entend parler des fois du tourisme sur la Lune, donc avec le projet Dear Moon. Et même à terme, pourquoi pas créer une base lunaire, donc qui pourrait servir à la vie sur la Lune. Ou alors même, on pourrait imaginer que ça pourrait être une sorte de base relais pour pouvoir aller sur Mars, en fait, où on pourrait stocker des ressources pour aller sur Mars. Donc voilà un petit peu les problèmes qu'on aurait pendant le vaisseau, qui s'appliquerait sur le vaisseau pendant notre trajet. Alors il y a aussi un autre problème qu'on ne pense pas toujours, au-delà de la technologie, des problèmes technologiques purs, il y aurait aussi les contraintes que les hommes subiraient. Donc avec l'absence de gravité, donc on aurait des problèmes par exemple sur l'oreille interne, hein, donc pas la même pression. On aurait aussi des pertes de masse musculaire et de masse osseuse, hein, donc ce qui nous obligerait à faire énormément de sport, ce qu'on voit déjà dans les scientifiques de la Station Spatiale Internationale qui font beaucoup de sport pour justement compenser cette perte de poids. Et on pourrait régler le problème par exemple en essayant de recréer une gravité dans le vaisseau, donc ce ne serait pas chose facile, avec la force centrifuge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, le plus souvent, en fait, cette force, bon, alors pour expliquer un petit peu ce que c'est, on peut prendre l'exemple, par exemple, quand on prend un virage en voiture un petit peu trop rapidement, on sent cette force qui nous pousse, en fait, qui nous pousse sur le côté de la voiture. Voilà, c'est ça, cette force centrifuge. Et en fait, voilà, elle nous permettrait, en faisant tourner le vaisseau très rapidement, de recréer une gravité artificielle. Alors, le problème, c'est que voilà, en fait, contrairement à la Station Spatiale Internationale, qui est à 400 km de la Terre, nos astronautes, eux, seraient beaucoup plus loin, en fait, hein, donc, puisque Mars, c'est pas 400 km de la Terre. Et ils ne pourraient pas autant être ravitaillés on ne pourrait pas leur apporter autant de ressources comme on le fait, par exemple, avec la Station Spatiale Internationale. Donc, ils vont devoir, une des plus gros challenges, en fait, ça serait qu'il va falloir qu'on recrée beaucoup de choses sur Terre, comme sur Terre. Donc, par exemple, il faudrait créer presque, si j'ose dire, un petit écosystème. Donc en fait, il faudrait qu'on fasse pousser des plantes, comme on voit un petit peu dans le film Seul sur Mars avec Matt Damon. Et puis voilà, il faudrait aussi apporter des outils, beaucoup d'outils. Alors c'en aurait une solution qu'on pourrait apporter, c'est qu'on pourrait en fait, grâce à l'impression 3D, avec une imprimante 3D, en fait, imprimer les outils dont on a besoin. Et puis en fait, les faire fondre et récupérer cette matière pour pouvoir créer de nouveaux outils. Donc ça serait une façon un petit peu d'économiser de la place en emmenant une seule imprimante 3D et de pouvoir faire plein d'outils différents. Donc voilà un petit peu les différents problèmes qu'on aurait en fait, l'homme. Et ce n'est que quelques problèmes parmi tant d'autres, hein. Et il y a aussi le fait qu'on ne pense pas souvent, mais l'homme, on mettrait des hommes en fait dans un espace confiné pendant longtemps. Ce n'est pas un espace naturel pour l'espèce humaine. Et donc voilà, on peut imaginer un petit peu les problèmes que ça peut apporter. Donc avec tout ce qui s'ensuit, dépression, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, de vous expliquer un peu les différents problèmes qu'on pourrait avoir avec tout ce qui est, le trajet, le vaisseau et les contraintes que l'homme subirait. Voilà.
Ok, merci Rodolphe. Du coup, moi, je voulais vous présenter une musique que j'ai produite pour l'occasion et que j'ai intitulée « Dance on Mars ». On écoute ça.
Eh bien, merci Romain de nous faire partager ta passion de la musique avec cette musique électro. Je tiens un petit coup de pub. Voilà,
Merci Thomas.
Voilà, donc ton nom d'artiste, c'est Sérum.
Comme le sérum qu'on boit.
Voilà, exactement. Donc très bien, donc, revenons un peu à notre sujet. Très bien, donc, maintenant nous voici dans l'espace. Imaginons, nous avons réglé tous les problèmes, tant dans le vaisseau que pour l'humain. Donc direction Mars, et nous apprêtons à atterrir sur ce territoire hostile. Il faut maintenant survivre, et également vivre. Comment pourrait-on faire, Éloine ?
Alors, je vais essayer de vous présenter un peu les idées farfelues qui sont en ce moment, celles qu'on pourrait retenir pour habiter sur Mars, histoire que vous ayez un petit aperçu de ce qui a été pensé. Alors déjà, ce qui reste du domaine de la science-fiction, mais qui a été pensé, c'est la terraformation. Pour que la vie puisse exister, il faut qu'il y ait de l'eau liquide sur Mars. Donc l'homme, s'il veut habiter sur Mars, devra modifier la pression et la température. À ce jour, la température moyenne sur Mars, c'est environ moins 55 degrés Celsius. L'eau, elle est donc stockée sous forme de glace. Sur Mars, il n'y a quasiment pas de pression atmosphérique en fait. Ça implique que l'eau, elle bout à 0 degrés Celsius. Donc, l'eau passerait de l'état solide à l'état gazeux. L'idée, ce serait de faire fondre les calottes polaires qu'on a récupérées sur Mars pour faire fondre les glaces d'eau et de dioxyde de carbone. Une fois libéré, ce dioxyde de carbone irait naturellement épaissir l'atmosphère martienne. On aurait alors une augmentation de la pression atmosphérique et également un réchauffement global par effet de serre. Des spécialistes ont estimé qu'une augmentation de 4 degrés au niveau des pôles pourrait ainsi déclencher une réaction en chaîne dans le monde martien pour que l'eau liquide devienne abondante. Le but est d'agir localement pour obtenir des résultats globaux. Bien évidemment, ça prendrait énormément de temps. En fait, l'idée, c'est de créer un réchauffement climatique comme celui qu'on est en train de subir sur Terre. Je vous laisse un peu imaginer. On peut se demander aussi comment respirer sur Mars. Là encore, l'atmosphère contient 96% de dioxyde de carbone. et seulement 0,13% d'oxygène, contre 21% sur Terre. Il faudra donc en fabriquer artificiellement. Les scientifiques cherchent une parade. Le prochain rover martien de la NASA, mars 2020, embarquera ainsi un instrument, MOOXIE, susceptible de transformer le dioxyde de carbone de la planète rouge en NO2, en dioxygène. Si cette technologie fonctionne, on pourra espérer faire respirer les hommes, vivre les plantes, mais aussi de produire le précieux carburant pour ravitailler les fusées et préparer le voyage retour. Alors, on se demande aussi où est-ce qu'on vit. Est-ce qu'on vivra à l'intérieur des grottes ou à l'extérieur? Pourquoi est cette question un peu farfelue? Parce qu'il y a des radiations sur Mars. En effet, la planète a une atmosphère extrêmement fine. Elle laisse donc passer des radiations qui sont très dangereuses. On pourrait régler ce problème en habitant sous la surface. On pense que Mars cache sous Terre de longs tunnels volumineux, dans lesquels on pourrait installer de vastes habitats avec des modules qu'on aurait créés sur Terre et qu'on irait directement implanter. Maintenant, quel type d'énergie? Parce que, bon, on comprend bien qu'on essaye de recréer un peu notre mode de vie terrestre. On discutera de ça plus en détail dans la partie débat. Mais on a réfléchi un peu aux énergies possibles et, par exemple, au solaire. Bon, il se trouve que ce n'est pas la meilleure solution car c'est une alimentation qui n'est pas continue et on est également soumis aux tempêtes de poussière. Les panneaux solaires prennent beaucoup de place. Donc, on pense utiliser, en tout cas c'est ce qui est préconisé, la fission nucléaire avec de petites installations. On a des études sur l'éolien ou l'hydraulique en sous-sol qui se font aussi. Il ne faut pas oublier la poussière, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que comme il y a une atmosphère très fine, elle s'accroche partout. Et par conséquent, il faudra nettoyer constamment les installations. Donc pour les panneaux solaires, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut comprendre qu'au final, on recrée avec ce qu'on a sur Terre une façon de fonctionner. Donc voilà, le nucléaire, avec les questions qu'il pose sur Terre, bah hop, sur Mars. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la colonisation de Mars? Le projet, en tout cas, d'Elon Musk, c'est d'ici 2060, une colonie de 1 million de personnes sur Mars. 2117, une ville. Voilà un peu pour un état des lieux. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est uniquement de la spéculation. Et en fait, plus on y regarde de plus près, ben, plus on se rend compte que les obstacles sont monumentaux. Et finalement, ça nous ramène un peu les pieds sur terre, si j'ose dire.
Merci beaucoup, Éloane. Je souhaitais revenir sur cette survie de l'humanité de la part de Elon Musk avec cette hypothèse de l'astéroïde. Si je vous dis dinosaure, certains penseront Jurassic Park et d'autres penseront à leur extinction. Penseront à l'impact au Mexique de l'astéroïde de 10 km qui percuta la Terre en terrassant au passage tous les dinosaures. Et la question se pose, que se passerait-il si un astéroïde frappait la Terre? Les astéroïdes qui percutent la Terre, il y en a tout le temps et je vais même vous dire tous les jours. Par an, c'est 100 000 tonnes de cailloux qui pénètrent l'atmosphère. On parle ici de cailloux de quelques grammes, voire de quelques kilos tout au plus. Statistiquement, plus les impacts sont gros, plus ils sont rares dans l'histoire de la Terre. L'impact du Mexique, par exemple, arrive tous les 200 millions d'années. Mais statistiquement, ne veut pas dire que la prochaine comète qui frapperait la Terre serait programmée dans 135 millions d'années. Cela signifie juste que c'est rare. Cela pourrait donc arriver demain, ou dans les temps à venir. Au début des années 90, le risque de la collision entre une comète et la Terre était négligé. Ils pensaient qu'un astéroïde comme celui-là ne pourrait pas revenir frapper la Terre. Mais en 1994, ils changèrent radicalement de point de vue. Depuis 1993, la comète Shoemaker-Levy est suivie de près car elle est sur une trajectoire de collision avec Jupiter. Je tiens à préciser que Jupiter est à 591 millions de kilomètres en moyenne de la Terre. Cette comète est fragmentée à cause de l'attraction gravitationnelle de Jupiter et va la frapper donc en plusieurs points. Le 16 juillet 1994, à 20h, le fragment A, donc le premier fragment de cette comète, pénètre dans l'atmosphère. La boule de feu générée par l'impact est si grande que l'on pouvait la voir depuis la Terre. Au total, c'est 21 impacts qui seront relevés à la surface de Jupiter. Le fragment le plus gros créera à la surface de Jupiter une tache deux fois plus grande que la Terre. L'énergie libérée est estimée à 6 teratonnes de TNT, 600 fois l'arsenal nucléaire mondial. Il est vrai que Jupiter est plus susceptible de se faire frapper par des astéroïdes à cause de sa grande attraction gravitationnelle, mais il n'empêche que la question se posait pour nous. Le projet Spacewatch, surveillance du ciel, a alors été mis en place. Et on en a découvert des astéroïdes, avec des trajectoires pas très rassurantes. Elles sont appelées astéroïdes géocroiseurs. Ces cailloux de quelques mètres à quelques kilomètres frôlent la Terre à des distances allant de millions de kilomètres à seulement quelques kilomètres. En 1995, on crée l'échelle de Turin. Elle sert à classer le risque de collision entre la Terre et un astéroïde. Mais comment faire pour s'en protéger ? Les gros astéroïdes sont visibles de plus loin. Par conséquent, plus on s'en occupe le plus tôt possible et de lui envoyer un impacteur d'une dizaine, voire de centaines de kilos, plus on aura de chances de l'éviter. Cela permettra donc de modifier sa trajectoire du caillou de manière infime. Mais il ne faut pas oublier qu'un changement infime après avoir parcouru des milliards de kilomètres, c'est assez pour passer d'une collision à un frôlement. Mais que se passerait-il si l'un d'entre eux passait entre les mailles du filet et frapperait la Terre ? Est-ce que cela annihilerait toute forme de vie sur Terre ? Probablement pas. Revenons à cet impact au Mexique qui est arrivé il y a 65 millions d'années. Qu'est-ce qu'a donné cet impact ? Ça a libéré 206 tératonnes de TNT, près de 14 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. À l'impact, le cratère a mesuré plus de 150 km de large et 25 km de profondeur. Mais maintenant, on va replacer le contexte à de nos jours. On va regarder l'impact depuis trois villes. On va prendre Miami, qui est à 1000 km de distance de l'impact du Mexique, New York, 2500 km, et Paris, 8500 km. Depuis Miami, lorsque la comète pénètre l'atmosphère, pardonnez-moi, la boule de feu apparaît 25 fois plus grosse et 80 fois plus brillante, pardonnez-moi, et brûlante que le Soleil. Sous l'effet d'une telle radiation, les vêtements, le papier, le bois sec ou encore l'herbe prennent immédiatement feu. Mais si on se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, on peut s'en tirer. Mais pas pour très longtemps, vu que la chaleur extérieure est insupportable et l'air irrespirable. Trois minutes après l'impact, les secousses arrivent et sur l'échelle de Richter, la magnitude du séisme est de 10,2 sur le point d'impact. Un séisme d'une violence jamais encore enregistrée sur Terre. Mais à 1000 km de là, c'est un séisme modéré. Quelques fenêtres explosent et les murs se fissurent. Huit minutes après l'impact, une pluie de cendres et de cailloux apparaît. 50 minutes plus tard, si vous avez survécu à tout cela, l'onde de choc atmosphérique arrive avec un vent de plus de 300 mètres par seconde. Cela rasera les buildings les plus solides et un bruit qui vous percera les tympans. Du point de vue du New-Yorkais, ça commence mieux puisqu'il n'y a pas de radiation et donc pas de brûlure. Huit minutes après l'impact, le sol vibre, accompagné d'un bruit sourd. Les meubles grincent tout au plus. 15 minutes après l'impact, les premiers débris arrivent. Les cendres obscurcissent le ciel et une pluie de cailloux de 2 cm de diamètre arrive. Donc, certains passants iront aux urgences. Deux heures après l'impact, l'onde de choc arrive avec un coup de vent de 250 km par heure. Suffisamment assez pour arracher des toits de maison ou coucher des arbres. Et on peut aussi citer un bruit comparable à celui d'un concert de métal. À Paris, les choses sont plus vivables. Il n'y a pas de radiation, donc pas de brûlure. 30 minutes après l'impact, la vibration est ressentie comme un 35 tonnes qui passe dans la rue. 50 minutes plus tard, les poussières voilent le ciel. Et 7 heures après l'impact, un bruit aussi fort qu'un trafic d'autoroute se fait entendre, suivi d'un vent de 50 km par heure. Donc, pour les Parisiens, ça va. Ici, on a affaire à une catastrophe globale, malgré tout, puisqu'il y a des millions, voire des milliards de morts. Puisque si la comète attaque Pékin, par exemple, il y aura ici des milliards de morts. Mais on est loin de cette image de la Terre carbonisée sur toute sa surface, d'où ce cliché que je voulais démentir. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Point Culture.
Merci pour ce petit coup de flip astéroïde. Alors maintenant, on va retourner un peu vers Mars, on va ajuster un peu notre télescope et on va écouter de la musique. Parce qu'en fait, il y a déjà des musiciens qui ont pensé à quitter la Terre, mais peut-être pour d'autres raisons que celle de la fuir par peur d'un astéroïde ou du réchauffement climatique. Ils sont une dizaine sur scène, trois saxophones, des trompettes, des percussions, une flûte, des guitares, une contrebasse. Tous noirs, entrant et sortant en procession derrière une danseuse et jouant un jazz de grand ensemble, structuré en tourbillon libre et hurlant, qui travaille la répétition jusqu'à faire glisser son public dans une transe, d'où il ne sortira qu'en psalmodiant avec eux des mantras qui appellent à quitter la Terre pour Saturne. Voilà les mots du journaliste David Troop après le premier concert de Sun Ra et de son orchestra au Royaume-Uni en novembre 1970. Le groupe américain est alors au début de sa première tournée en Europe et le public découvre son univers total et exubérant. On va écouter un morceau, free jazz donc, de Sun Ra et son orchestra. Ça s'appelle Next Stop Mars et c'est tiré de l'album When Angels Speak of Love qui est sorti en 1966. Chacun des musiciens porte une robe colorée et des colifichets qui les font ressembler à une secte New Age attendant un messie en soucoupe volante. Mais ils l'ont déjà trouvé, il s'appelle Sun Ra. Portant une cape brillante de faux diamants et un chapeau de pharaon interstellaire sur un visage épais, aussi narquois que décidé, il joue derrière eux d'une rangée de claviers et synthétiseurs de toute dernière génération. Et pourtant, celui qui est né Herman Poole Blunt, il y a un siècle, en 1914, à Birmingham, en Alabama, avant d'y retourner mourir en 1993, n'était pas destiné à autre chose que devenir un travailleur noir de plus, pauvre et méprisé dans l'Amérique violemment ségrégationniste du début du XXe siècle. Mais c'est justement de cette terrible réalité qu'il s'est échappé en premier, niant une vie condamnée d'avance, effaçant les traces de son enfance. À la place, il affirme dès le milieu des années 30 avoir été emmené sur Saturne à l'âge de 3 ans et avoir vécu avant d'être né. À la fin des années 50, alors que la course à l'espace s'accélère après le lancement du satellite soviétique Sputnik en 57, Sun Ra y accole sa fascination pour l'astronomie. L'orchestra, son orchestre, devient dès lors une arche emmenant une partie de l'humanité vers une Terre renouvelée afin de redémarrer l'histoire. Sun Ra et ses musiciens jouent dès lors pour accompagner ceux qui y sont prêts vers un ailleurs spatial où la domination blanche n'aura plus lieu d'être. Pionnier, hors catégorie tout en restant accessible, prophète cosmique du jazz, Sun Ra aurait 105 ans aujourd'hui. Peut-être que cette musique constitue le meilleur voyage vers Mars à bas prix, tout en gardant les pieds sur cette chère planète bleue.
Eh bien, merci beaucoup Éloine pour ce point culture. Avant d'entamer le débat, je voulais juste faire un petit coup de pub, puisque il y a une exposition, Voyager vers Mars, découvrir la science de l'air, de l'espace et ses métiers, qui se trouve à Rouen. Vous serez plongé dans l'univers de Mars et vous pourrez même admirer un planétarium. Le prix est de 6 euros plein tarif. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de cette exposition sur Science Action. Et même pour les plus curieux et pour les plus riches d'entre vous, si vous souhaitez encore plus vous plonger dans l'univers de Mars, vous pourrez payer la modique somme de 500 000 dollars pour avoir un billet sur Mars. En tout cas, c'est ce que dit Elon Musk. Et sur le plus long terme, pardonnez-moi, même 100 000 dollars. D'ailleurs, de son point de vue, pour lui, c'est une somme suffisamment basse, car quand on vend notre maison, on peut se payer un billet pour Mars et déménager sur cette planète. Voilà. Donc,
il dit vraiment ça ?
Il a vraiment dit ça. D'accord. Moi aussi, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait vraiment sourire. Donc, c'est parti pour le débat. Et je vais vous poser une question simple. Est-ce que pour vous, ça vaut le coup d'aller dans l'espace ?
Comment ça vaut le coup ?
Est-ce que finalement pour vous, on sait que la Terre commence à avoir des petits problèmes en ce moment avec le réchauffement climatique et on souhaite un peu s'étendre finalement. Et de la même manière pour vous, est-ce que aller sur Mars par exemple...
Est-ce que c'est la solution ? C'est ça la question ?
Exactement. Est-ce que... Voilà, exactement. C'est exactement ça. Mais...
Alors... C'est forcément une question qu'on devait traiter, j'imagine.
Oui.
J'ai pas beaucoup de billes, mais je vais essayer de vous donner mon ressenti. Personnellement, je pense que d'un point de vue démographique, je pourrais être pour la colonisation de Mars ou d'une autre planète ou de l'univers. D'un point de vue éthique, personnellement, ça me pose pas vraiment de problème, en fait, parce que je considère qu'il n'y a pas encore la vie sur la planète Mars, ni sur Vénus, ni ailleurs, en fait. Je considère qu'on ne va pas, en fait, c'est pas comme historiquement les colonies françaises en Afrique ou ailleurs, c'est pas du même ordre. Pour moi, c'est vraiment... investir un lieu qui est dépourvu de vie. Donc en soi, ça ne me pose pas de problème. Par contre, je ne comprends pas, je ne peux pas imaginer qu'on puisse avoir l'intention de le faire quand bien même des gens sur la planète, sur notre planète qui est en train de mourir, ne pourraient pas y accéder plus tard. Parce que c'est ça la question, qui est-ce qu'on va envoyer en premier ceux qui ont le flouze, ou ceux qui ont l'argent, ou ceux qui, ont... est-ce qu'on va pouvoir envoyer toute la population mondiale sur une autre planète si jamais la Terre n'est plus viable ? Et est-ce que dans cette optique-là, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'essayer de préserver notre chère planète bleue ?
Oui, alors voilà.
Moi, c'est ce que je pense.
Alors, tu soulèves un point qui est pour moi très important, puisque finalement... de ce que j'ai entendu par rapport à vos explications pour Mars, par exemple, pour terraformer un peu Mars, il faudrait finalement la polluer. Ce qui est assez intéressant, je trouve ça assez ironique, que pour rendre un espace vivable, il faut d'abord la polluer. Et pour moi, la question vient tout de suite.
Je pense que de toute façon, ces théories... là, on est dans un paradigme qui nous permet d'imaginer ce genre de théorie. Je pense que dans 200 ans, ce sera totalement révolu. Bombarder une planète de calcium ou de dioxyde de carbone, c'est ce que je pense.
Oui, c'est vrai que la terraformation fait partie un peu de la science-fiction dans l'idée, mais finalement, certains scientifiques avancent quand même de belles théories. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même beaucoup d'années pour terraformer une planète. Certains disent tout de même 100 000 ans. Donc ça mettra du temps, évidemment, puisque changer une planète, ça ne se fait pas en deux jours. Mais voilà, moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment pouvons-nous éviter les erreurs faites par l'humanité sur Terre, en ce moment, à cause du réchauffement climatique, etc., sur Mars ? Comment pouvons-nous éviter de faire les mêmes erreurs ?
Ben déjà, on est parti pour les refaire parce que dans ce qu'on a présenté un peu, l'idée c'était de venir avec notre énergie et puis de s'installer. Et je sais pas, je trouve qu'on manque un peu de créativité. Et pour revenir juste sur ce que vous disiez, ben ce que vous étiez en train de dire, c'est un peu triste en fait parce que finalement, par exemple, Elon Musk, tous ces gens-là, ben, ce sont des marchands de rêves. Et plus que la non-faisabilité de la chose, ça nous donne l'impression qu'on pourrait être sauvé de cette manière. Et finalement, c'est presque à nous dégoûter de la vie sur Terre ou nous dire, bon, finalement, c'est pas très grave. Au pire, ouais. on va en retrouver une autre. Et puis, on fera mieux que la dernière fois. On triera nos déchets cette fois. On va amener des sacs jaunes avec nous. Mais non, je pense que tu parlais de science-fiction tout à l'heure. Et tu disais, ben, la terraformation, c'est de la science-fiction. C'est vrai, je pense que c'est de la science-fiction avec peut-être une surcouche scientifique plus évolué quand même, et puis quand même un apport un peu plus solide. Mais c'est de la mauvaise science-fiction, parce que la bonne science-fiction, au final, c'est celle qui nous fait mieux vivre sur Terre.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est-à-dire que pour toi, Elon Musk, ce qu'il dit, c'est pas possible. Enfin, entre guillemets, pas possible, mais pas pour tout de suite, c'est ça?
Ben, c'est pas possible, et bon, peut-être que c'est théoriquement possible, mais même ça me paraît dangereux, en fait, parce que ça fait germer des idées, des espoirs qui sont complètement déconnectés en fait de notre réalité, de notre présent et de la vie qu'on a. Et je pense qu'on peut se faire rêver en se tournant vers l'espace, mais pour la connaissance en fait, pour juste pas pour rendre plus près ce qui est inaccessible, mais en sachant que ça le restera et que c'est mystérieux, mais que enfin on sait très bien qu'on va pas aller habiter sur Mars.
Le simple fait que tout ça soit ultra médiatisé, c'est ça en fait, c'est des marchands de rêves. Elon Musk, c'est rien de plus qu'un milliardaire, millionnaire, j'en ai aucune idée.
Milliardaire,
en fait.
Milliardaire.
Milliardaire, ok. Un peu dépressif de 45 ans.
qui fait son rêve un peu fou.
Voilà, c'est ça, ouais.
Mais finalement, malgré tout, il fait quand même des fortes impressions face à son public, face même à tout le monde, puisque quand il fait des présentations sur son projet, puisqu'il parle de 2024 pour envoyer des gens sur Mars, mais il y a d'abord 2022. Et pour vous, est-ce que si 2022 fonctionne, marche, entre guillemets, tout se passe bien, est-ce que ça veut dire que pour vous, 2024, c'est sûr et certain, ça va marcher pareil? Ça sera vraiment la même chose? Parce que, voilà, pour vous, Elon Musk, c'est vraiment le, comme vous dites, le milliardaire un peu. Voilà, il ne sait pas quoi faire le dimanche. Il se dit, bon, pourquoi pas aller sur Mars?
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, à mon avis, c'est quelqu'un de très intelligent qui travaille énormément et qui a des rêves et qui essaye, sans le vouloir, de les insuffler aux autres et éventuellement de trouver une finalité là-dedans. En fait, je ne sais pas si plus tard, il aura peut-être en 2024 revendu SpaceX pour autre chose. Mm-hmm. Ça, on n'en sait rien. Je ne sais pas en fait s'il y a un réel fondement, je veux dire, une réelle émulation derrière tout ça, ou si c'est seulement du show en fait.
Voilà, je voulais évoquer un petit peu le coût financier de ces projets qui est généralement colossal. Et je pense que pour une entreprise, qui doit financer ses projets de son capital propre, doit se demander si c'est quelque chose de raisonnable. Donc voilà, on parlait d'Elon Musk, de SpaceX. Il faut savoir qu'Elon Musk, ses entreprises sont surendettées, qu'on leur continue à leur prêter, par exemple Tesla. Ou SpaceX, parce que voilà, on a confiance en ces projets et voilà, mais à terme on n'est pas sûr de pouvoir, enfin il n'est pas sûr de pouvoir aller au bout de ses ambitions, rien que au niveau du coût financier. On n'est pas dans la structure d'un État comme les États-Unis qui, quand ils ont décidé de faire la conquête spatiale, ont des moyens quasiment illimités pour le faire. Ça reste une entreprise, donc après ouais, voilà, je pense qu'il y a ce problème financier qui se pose, et savoir si on a vraiment un intérêt en fait économique de le faire. Parce que coloniser Mars, voilà, ça, c'est un beau projet, c'est quelque chose qui fait rêver, mais est-ce qu'à terme c'est vraiment viable en fait pour notre société et pour des entreprises mettre les moyens dans la conquête spatiale? C'est souvent difficile, donc je pense qu'il faut pas oublier cet aspect économique à prendre en compte quand on parle de SpaceX, d'Elon Musk.
Tu dis que ça fait rêver, mais j'ai envie de te questionner un peu. Est-ce que ça fait vraiment rêver? En tout cas, personnellement, ça me fait pas du tout rêver d'habiter sur Mars, parce que Au final, c'est triste, ça veut dire qu'on a abandonné la Terre et cette diversité qu'on ne connaît pas. Enfin, on peut se dire que, je ne sais pas, la Terre, c'est aussi inconnu qu'une planète qui a des milliards de kilomètres, parce que regardez toutes ces espèces qui disparaissent de jour en jour et on ne les connaît même pas, on ne les a même pas découvertes. Finalement, vouloir coloniser Mars, c'est un échec. Enfin, faut projeter nos rêves sur ce qui est ici, peut-être.
Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Quand je dis que ça fait rêver, j'entends par là que voilà, quand on regarde un petit peu, quand on a fait nos premiers pas sur la Lune, voilà, c'est quelque chose qui tous les enfants ont rêvé.
C'est grand, quoi.
Pour tout le monde, voilà, c'est technologiquement parlant, c'est quand même une prouesse. C'est quelque chose de voilà, on va vers l'inconnu, le mystérieux. On part, c'est les nouveaux explorateurs, si tu veux. C'est voilà, j'entendais par là que ça fait rêver. Mais clairement, voilà, moi je pense que bien sûr, il faut privilégier tous nos efforts sur la sauvegarde de la Terre et ensuite voir si on peut voilà coloniser l'espace.
Ouais, finalement, on soulève un point important ici, c'est est-ce que la colonisation de Mars est un pas en avant ou un pas en arrière, comme tu disais, Éloane. Mm-hmm. C'est vrai que si on va sur Mars, ça veut dire que la planète Terre n'est plus vraiment sauvable, ou alors difficilement sauvable, et donc on se tourne sur une autre planète. Et c'est là où j'ai envie de vous poser cette question, c'est est-ce qu'on devrait plutôt investir dans SpaceX pour finalement partir sur Mars, puisque voilà, la Terre c'est terminé, ou au contraire, s'investir vraiment dans cette survie de la Terre, pour dire vraiment non, on ne quittera pas cette chère planète bleue. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, les deux sont même incompatibles en fait. Parce que quand
les deux, excuse-moi de te couper, les deux, ça implique la survie de l'humanité dans l'idée. C'est l'objectif principal de SpaceX d'ailleurs dans ce projet de coloniser Mars.
Oui, je suis d'accord. Mais je veux dire, on peut pas avoir d'un côté la planète, la Terre et ses habitants qui investissent et qui investissent d'eux-mêmes pour la survie de leur planète, et de l'autre côté des boîtes privées qui veulent aller dans l'espace et qui investissent des milliards là, ou des milliers d'euros ou des millions, j'en sais rien, là-dedans.
Et qui polluent,
exactement, ouais. Ouais, en fait, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça même indécent en fait. De le montrer, surtout. Encore, on ferait des recherches là-dedans, des recherches sur la colonisation de l'espace. Il y en a depuis le début du siècle dernier, en fait, même avant la Première Guerre, en fait. À l'état d'ébauche, bien sûr. Mais ce que je disais, ma chronique tout à l'heure sur Vénus, les premiers fondements, c'était en 1950, bon, après la Deuxième Guerre, mais c'est vieux quand même. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que Elon Musk, dans sa démarche, il est vraiment, il cherche à montrer son savoir et peut-être ses recherches et celles de ses équipes. Et moi, je trouve ça indécent de parler d'aller vivre sur une autre planète quand il y a des millions de personnes qui n'arrivent pas à vivre sur la planète où on est, quoi.
D'accord.
Et par rapport à ça, est-ce que si on pense un peu plus général, est-ce que donc tu penses qu'il faudrait arrêter même les recherches d'astronomie parce que ça coûte de l'argent et parce que c'est pas quelque chose qui est directement utile à notre vie sur Terre ?
Moi, je suis d'accord avec ça, ouais.
Tu penses qu'il faudrait arrêter ces recherches ?
Ouais, totalement, ouais.
Et alors,
comme en fait toute la recherche scientifique qui ne va pas dans l'intérêt direct du peuple.
Alors, moi, je juste, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a l'ISS, la Station Spatiale Internationale, où on fait beaucoup d'expériences pour savoir comment réduire les coûts pour envoyer des vaisseaux spatiaux. Également des expériences sur Terre, comment on peut gérer certaines problématiques, on fait des expériences là-haut. Donc moi je pense que si on arrête tout, si on coupe les vivres entre guillemets pour la recherche spatiale, même l'être humain n'acceptera pas, puisque l'être humain dans ses gènes a envie d'explorer, a envie d'aller plus loin, il veut toujours repousser les limites pour moi. C'est la conquête de l'Ouest, par exemple, c'est typiquement américain. Et là, Elon
Musk...
Je pense
que tous les humains n'ont pas les mêmes gènes, alors, dans ce cas-là.
Oui, alors, au général, peut-être pas, mais en tout cas, l'histoire nous a montré que on a toujours voulu s'étendre au maximum.
Oui, non, mais c'est vrai, oui.
Mais est-ce que c'est pas paradoxal qu'on veuille s'étendre à ce point-là et qu'au final, il y ait plein de gens qui ne savent pas, même nous, précisément ce qu'il en est de Mars. Au final, est-ce qu'on pourrait pas faire voyager tout le monde vers Mars, mais juste en restant sur Terre par la connaissance, par la découverte de cette planète d'un point de vue plus intellectuel, plus... Enfin, Je pense que ça serait plus beau comme projet et plus accessible.
Tu veux dire ça par rapport à des expositions, par exemple des...
Oui, ou même des cours. Enfin, voilà. Après, d'accord. Maintenant, il y a tout le matériau nécessaire, mais je trouve c'est dommage de présenter uniquement les résultats qui font rêver et pas d'expliquer aux gens, de donner une autre envie, quoi.
Oui, être plus proche du public, entre guillemets, pour savoir ce qui va se passer, c'est ça ?
Non, plus vraiment que les gens aient accès à la connaissance, tu vois, de Mars, parce que la question, c'est qu'est-ce qui fait rêver, en fait ? Et comment est-ce qu'on rêve ? Et est-ce que c'est des rêves qui se font parce qu'on a des peurs au fond de nous ? Ou est-ce que c'est des rêves qui se font parce que, comme tu dis que dans nos gènes, on a envie d'aller plus loin, de toujours plus explorer. Et je suis d'accord, et je pense que d'un point de vue de la connaissance, du savoir, ça se tient. D'un point de vue du développement illimité et des prouesses technologiques, ben on voit bien maintenant que ça a plus de sens, ça a aucun sens. Enfin, ça nous a amené là où on en est maintenant et faut arrêter quoi.
Oui, en fait, finalement maintenant, on se bat contre l'innovation en ce moment même. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est un autre débat encore.
La thématique s'insère bien dans le débat quand même.
Ah, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je vais finir par cette question. Est-ce que vous voudriez faire partie des premiers colons de Mars ? Bon, alors, pendant toute votre discussion, je pense avoir compris un peu votre point de vue là-dessus, mais ça m'intéresse quand même de savoir un peu pourquoi oui ou pourquoi non.
Bah, pour fuir à ma belle-mère, pourquoi pas.
Oui, ça c'est une très bonne idée, ça c'est une très très bonne idée. Mais sinon.
Oui, bah moi j'aimerais beaucoup faire partie des premiers colons de Mars parce que voilà, c'est pour moi c'est un petit peu ça me fait rêver comme je pense beaucoup de jeunes, beaucoup de même de moins jeunes hein, qui voilà c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose de mystérieux et donc c'est que moi j'aimerais beaucoup voilà faire partie de cette grande aventure.
Bon bah Rodolphe astronaute. Hein.
voilà c'est on te voit
t'as
dans.
Pas choisi le bon cursus.
Ouais, c'est ça. On te voit en 2024 alors ouais, on te verra à la télé. Voilà. D'accord, très bien. Et donc toi, Romain ?
Moi, alors, je dirais juste non.
Juste non ouais. Et pas de... D'accord, très bien. Très bien. Bien écoutez, maintenant, on va vous faire écouter une petite musique qui s'inscrit très très bien dans notre thème. David Bowie, Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. In the best-selling show, is there life on Mars? Voilà, donc pour conclure, on peut dire que Mars reste malgré tout une ébauche pour l'instant. Le voyage de Mars restera malgré tout une ébauche qui se précisera dans les futures années. Donc gardons d'un coin de l'œil ce projet. Et eh bien, c'est fini pour nous. Nos 4 émissions sont terminées. C'était un réel plaisir pour nous d'avoir fait cette émission. C'est une expérience unique et j'espère que vous avez apprécié tous ces moments passés avec nous. Au revoir. Right.